Donc, tout d'abord, quelques mots très très simples hein, pour rappeler hein, que pour la Méditerranée, hein, nous sommes dans un espace où il n'y a pas de marée, où le plateau continental est réduit, hein, sans tomber dans un quelconque déterminisme géographique. C'est important, bien sûr, pour l'activité halieutique, que l'occupation des rivages est très inégale, que l'insécurité a été forte sur ces littoraux jusqu'au milieu du XIXe siècle, que nous avons une succession de côtes diverses, côtes rocheuses découpées pour la Provence, surtout de côtes basses, sableuses, hein, pour le Languedoc, avec quelques rochers, Agde, Sète ou Leucate. Et à propos de Leucate, hein, cela permet aussi de pointer l'importance donc des étangs, hein, qui sont parfois de véritables petites mers intérieures, hein, comme ici l'étang de Berre. La pratique de la pêche est très ancienne. Des fouilles qui ont été conduites il y a quelques mois sur la butte de la gare Saint-Charles à Marseille a pu faire apparaître un habitat dans cette colline, un habitat de marins paysans. Donc il y a au moins au 5e ou 6e millénaire avant notre ère cette présence d'activités de pêche. Nous avons aussi dans des témoignages littéraires, je songe à des poèmes comme celui d'Oppien, l'évocation de la pêche au thon, hein, dans des termes qui sont particulièrement saisissants. Lorsqu'on parle de pêche, d'abord, il s'agit de pêche de proximité. Hein. Nous n'avons pas ici de campagne lointaine ou de pêche mauritière ou haranguière. Hein. Ce sont des campagnes brèves, de quelques jours ou de la journée. Hein. Ce ne sont pas donc de pêche lointaine. Les Provençaux, les gens de Martigues par exemple, fréquentent l'Andalousie, hein, au large de Cadix, mais c'est les seuls espaces lointains et qui peuvent être mettre à l'actif des gens de Martigues ou d'Agde ou de Sète. Les prises, ce sont essentiellement bien sûr des poissons, mais il faudrait aussi accorder une petite place au corail, hein, et aux éponges. On pourrait aussi signaler ce qui peut paraître surprenant en Méditerranée, l'utilisation ou la récolte de goémons. Hein, de goémons, ce que les textes qualifient ou appellent de fumier de la mer, hein, c'est la mer qui vomit ce fumier, qui est ramassé, qui est mis en tas et qui est utilisé, après l'avoir fait sécher, au pied des vignes de la région de Cogolin, de Gassin. Hein, c'est une pratique qui est encore attestée au milieu du XXe siècle. Dans des ressources diverses, des ressources qui cependant présentent à l'époque moderne un dénominateur commun sur lequel j'aurai l'occasion de revenir à maintes reprises, à savoir les risques de pénurie. C'est la stérilité de la mer, le terme revient dans de nombreux textes, la stérilité de la mer qui est pointée avec insistance à partir surtout de la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, ressources partagées, mais ressources disputées, ressources réglementées. Donc, ce sont un petit peu autour de ces trois thématiques que je vais organiser ce propos, avec tout d'abord un rappel assez rapide des techniques qui sont mises en œuvre par les pêcheurs. Puis, dans un deuxième point, je montrerai qui sont les acteurs, hein, les acteurs les normes ou la régulation donc des pêches. Hein. Enfin, je m'arrêterai sur des conflits où je sélectionnerai trois cas liés à trois techniques, à trois moments, hein, là aussi avec des dénominateurs communs, mais aussi des objectifs qui seront différents. Donc d'abord, les techniques, les pratiques, hein, qui vont nous retenir dans un premier point, c'est un outillage que l'on trouve sur les littoraux du Ponant aussi, mais avec un outillage un peu, ou des techniques un peu spécifiques à la Méditerranée. Des savoir-faire qui peuvent être anciens, classiques, transmis au fil des générations, mais aussi, hein, à l'époque moderne, au XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle, l'introduction de techniques plus récentes, de techniques qui semblent venir, je dis semblent car il y a débat, discussion, polémique, d'espaces voisins, je pense en particulier à la Catalogne. Parmi ces pratiques, je retiendrai cinq ensembles. D'abord, des engins spéciaux, là aussi, qui n'ont rien d'extraordinaire, hein, des nasses, des casiers, ou des râteaux, hein, des râteaux pour ramasser des coquillages ou ramasser en particulier les oursins, hein, qu'on retrouvera ensuite notamment sur un tableau de Judith Vernet. Il y a également autre type d'outillage, la croix, hein, la croix de Saint-André, hein, cette croix qui est utilisée pour ramasser, pour cueillir le corail, hein, les branches de corail, hein, jusqu'à ce que l'on sache que le corail n'est pas un végétal, hein, c'est le biologiste marseillais Pessonnel qui pointera un petit peu la réalité du corail. Alors, cette croix de Saint-André est utilisée et était encore utilisée au XXe siècle, hein, là, de manière un peu plus furtive, pour décrocher, hein, sur les parois rocheuses, hein, ces branches de corail. Et nous pouvons trouver d'ailleurs cette pratique illustrée sur ce manuscrit, un manuscrit qui se trouve au musée d'histoire naturelle à Paris, un manuscrit qui décrit dans ce mémoire la pêche. Et la pêche pratiquée par les Catalans, et c'est aussi ce manuscrit sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui peut pointer du doigt l'introduction de techniques néfastes, hein, pour les côtes catalanes. Donc, on a un petit peu cette levée, hein, de ce corail, hein, le corail qui est utilisé à la fois en pharmacopée, mais qui est aussi utilisé pour la bijouterie, hein, utilisé pour des colliers, pour des bracelets, hein, le corail qui est façonné dans deux centres, Livourne et Marseille, hein, et c'est ce corail qui est aussi utilisé pour la traite négrière, hein, c'est une sorte d'aumône d'échange, qui est utilisé aussi pour le commerce en direction de l'Inde, dans la mesure où le corail est également une monnaie employée au Tibet. Hein, donc là aussi, il y a tout un circuit, tout un réseau pour la distribution de ce corail, hein, entre ces différentes places, Livourne, Lisbonne, Goa, hein, ce qui a été étudié par Francesca Trivelato, par exemple. Donc, en dehors de ces objets, il y a aussi des lignes, bon, des palangres, hein, classiques, palangres de fond, ou avec muni donc d'hameçons, espaces réguliers, hein, avec des appâts, mais aussi palangres de surface, ou presque, hein, avec une série de flotteurs, donc, qui permet là également d'attraper des espèces différentes. Il y a également, bien sûr, donc, toute une série de filets, hein, alors des filets qui peuvent être déposés, hein, à partir d'une embarcation, puis tirés, hein, depuis le bord, par des équipes. Hein, donc filets ici de Bourgin, hein, qu'on peut trouver mais sur ceux des côtes qui sont peu accidentées, peu rocheuses, pour ne pas bien sûr abîmer les mailles de ces filets. Filets fixes, filets dérivants, là aussi également, hein, c'est Paul Gouret, hein, qui a fait un inventaire à la fin du XIXe siècle des techniques de pêche et qui a rapporté un petit peu ces différents filets, hein, employés, donc filets également traînant, qu'on appelle aussi essog ou isog, utilisé par un ou deux bâtiments, hein, traînant, c'est ce qu'on appellera alors la pêche au bœuf, hein, la pêche au bœuf, hein, car comme, hein, pour tirer une charrue, là, il y a deux bateaux, hein, qui vont tirer un filet, donc une poche, hein, la pêche au bœuf, au bao, lorsqu'il y a un seul bâtiment utilisé, on a aussi le terme de la pêche à la vache, hein, dans les textes, qui signifie un petit peu ce filet qui va être donc traîné. À côté de ces donc, filets, il y a d'autres filets, sont des pêcheries fixes. Pêcheries fixes, comme on trouve également sur les côtes du Ponant, très peu représentées, hein, en Méditerranée. Là, c'est une aquarelle du 19e siècle qui nous montre près d'une auberge, d'une installation d'un pêcheur, on ne sait pas trop, pas bien identifié, mais c'est donc un parc, hein, un parc pour coquillages, fin 18e, début 19e siècle, sans doute donc la Ciotat. Mais ces pêcheries fixes sont mieux connues, les bourdigues. Hein. Alors les bourdigues sont, en Provence comme en Languedoc, on les appelle des ramates, sont attestées depuis le 11e siècle au moins. Elles se placent entre mer et étang, hein, entre mer et étang, entre mer Méditerranée et étang de Thau, par exemple, ou ici, entre Méditerranée et l'étang de mer. Donc ces bourdigues, ce sont là des dispositifs, hein, destinés à canaliser donc le poisson pour petit à petit l'amener vers une poche finale où on va pouvoir cueillir, hein, cueillir le poisson à la demande. Hein, à la demande, il y a une sorte de vivier, hein, qui est attesté ici, je répète, depuis au moins le XIe siècle. Et nous avons autour de l'étang de Berre, ou près de l'étang de Berre, une cinquantaine de bourdigues, hein, en place au XIVe siècle. Les bourdigues qui sont sous le contrôle de l'archevêque d'Arles. Donc, dispositif dans un chenal, un gros, 10 mètres de large, une profondeur réduite de 2-3 mètres. Hein, et ces broderies que sont fabriquées avec des roseaux, hein, des clés, avec des roseaux, et qui proviennent surtout de la région de Hyères. Hein, là, il y a aussi tout un acheminement de ces roseaux pour construire, pour fabriquer ces établissements, ces pêcheries fixes que sont les bourdigues. Donc là, le poisson est épuisé à la demande, ce qui n'est pas le cas pour les madragues. Hein. Les madragues, c'est un autre type de pêcherie fixe, hein, qui est également attestée en d'autres régions hors Provence. Nous en trouvons en Corse, en Ligurie, hein, donc les madragues sont destinées essentiellement à la capture des thons, donc des scombridés, mais pas uniquement, hein, d'autres poissons peuvent aussi être pris, des maquereaux par exemple, j'aurai l'occasion donc d'y revenir. Alors ces madragues, nous avons ici une représentation, une vue, on pourrait dire de dessus, hein, d'un document qui se trouve à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. C'est un dispositif donc de maille, un labyrinthe de maille, qui est accroché au rivage par une queue de maille, une queue de madrague, qui va faire barrage, qui va faire obstacle pour le passage donc des poissons, passage des thons, qui vont être acheminés vers ces différentes poches, effrayés depuis la surface, hein, pour être dirigés vers le corpus, la chambre de la mort, qui est à l'extrémité, qui est ici. Alors, l'ensemble de la madrague est composé donc par des parois de maille présentées verticalement, hein, comme vous voyez sur cette reproduction ici, hein, avec ces différentes poches qui vont progressivement diriger vers la partie finale où on tirera le corpus lorsque sera donné le signal par le capitaine de madrague, le raïs de madrague, le terme emprunté à la rive sud de la Méditerranée, dans le RAIS, qui a supervisé les opérations, qui a observé l'arrivée donc des thons, parfois dès février, rarement, hein, c'est plutôt en mars-avril, mais le gros donc de la pêche se situe entre le mois de mai et le mois d'octobre. Hein, nous avons donc là, hein, sous la conduite du RAIS, des opérations qui sont conduites par des équipes de 20-30 personnes. Hein, et ces madragues sont bien localisées, hein, sur les cartes, hein, sur les cartes, aussi bien sur le Neptune que sur la classe des rouards, le Belin. On a la localisation précise de ces madragues. Vous avez ici, au nord de Marseille, long de la côte bleue, on a des madragues qui sont bien représentées, que de madragues, et ensuite il y a des madragues avec les ancres ou les pierres, hein, qui sont utilisées, les bodes, hein, utilisées pour maintenir verticales les différentes parois. Donc, opération menée et placée, vous avez ici au début du XIXe siècle la localisation donc, des madragues que j'ai pu établir à partir, hein, donc relevée d'une carte qui se trouve au service historique de la Défense, donc à Toulon, et nous avons donc un petit groupe autour du golfe de Saint-Tropez, du golfe de Grimaud, Saint-Tropez, quelques-unes à proximité de Toulon, mais essentiellement c'est entre Classieux-Tacassis et l'entrée de l'étang de Berre, hein, c'est là que se trouve la plus grande partie donc des madragues au début du XIXe siècle et même au XVIIe siècle, les quelques documents qui attestent ces présences dans ces différents points, qui sont les points, hein, je le répète, de la circulation donc des thons, hein, le long de la route des thons. Alors cette route, j'ai essayé là de la simplifier, sur le bassin occidental de la Méditerranée, donc les poissons qui rentrent dans l'étroit de Gibraltar, hein, qui longent la côte nord de l'Afrique, puis ensuite le long de la côte italienne, puis d'après le golfe de Gênes, c'est la région de Provence, et ensuite de nouveau la sortie par l'étroit de Gibraltar. Donc c'est le long de cette route de migration des thons que sont placés ces dispositifs, les madragues. Avec une opération finale, hein, c'est la levée du corpus, hein, levée du corpus, avec un duhamel du monceau, des représentations, hein, qui sont bien, bien précises. Nous avons les équipes ici qui sont en train de ramener progressivement la partie finale, hein, avec les thons, et sous la conduite, l'observation du RAIS de madrague, hein, les opérations qui sont menées. Alors là, il ne s'agit pas de lever à la demande, mais c'est lorsque le RAIS de madrague estime qu'il y a suffisamment de poissons pris dans le corpus que le signal va être donné. Alors parfois, il y a des sortes de techniques décrites, par exemple, par le botaniste Michel Darluc, qui nous présente la situation de cette pêche, entre autres, le long des rives de Provence, et il nous parle d'un raïs de madrague qui met de l'huile sur la mer, puis ensuite une sorte de toile cirée sur la tête, et regarde s'il y a, finalement, dans le corpus, suffisamment de poissons. S'il y a suffisamment de poissons, c'est le signal de la matance, de la mise à mort. La matance, qui est ici, bien sûr, un tableau de Joseph Vernet, qui nous rappelle ce moment. Nous sommes ici au large de Bandol. Et lorsque Vernet peint les ports de Provence, en fait, ce n'est pas bien sûr le hasard qui le conduit. Et Marseille, c'est pour le commerce, Toulon pour la guerre, Antibes, c'est la frontière, et Sète, comme Bandol, c'est la pêche. Bandol, car c'est le seigneur de Bandol, Boyer de Bandol, qui a obtenu, depuis le tout début du XVIIe siècle, le droit d'exploiter des postes pour placer des madragues. Alors bien sûr, ce n'est pas lui qui va le placer, il va mettre en fermage ces postes où seront calés les madragues. Donc, entre Bandol et Antibes, pour le seigneur de Bandol, nous trouvons aussi d'autres puissants qui sont des propriétaires de droit d'utiliser la mer pour ces pêches. Alors, ces matances sont aussi des spectacles où on invite. Là, Joseph Vernet n'a pas triché. On invite, nous avons Joseph Martin à Saint-Tropez qui gère des madragues et qui invite des aristocrates, qui invite des bourgeois d'Avignon, de Marseille, à assister à la matance. Donc, un spectacle, avec ici une femme en train de se pâmer devant ce tableau où frétillent les scombridés. Simple petite anecdote, lorsque Joseph Vernet a réalisé cette toile, et lorsque la toile a été adressée à Louis XV pour qu'elle puisse être observée, comme le faisait Joseph Vernet après chaque toile, en fait, il y a eu une sorte d'émotion, car dans l'espace ici, c'était plutôt rougeoyant, c'est rouge, le rouge sang de ces tons qui sont harponnés, qui sont pris, ou qui sont pris vifs, mais aussi qui sont harponnés. Et il a fallu que Joseph Vernet revoie en quelque sorte son tableau, et en modifiant les coloris pour mettre une sorte de violet ou de blanc, pour modifier, pour rejeter le sang qui paraissait obscène. Donc, opération, et les Boyers vont au XVIIe et XVIIIe siècle avoir une place importante en Provence. Ils vont être les présidents du Parlement de Provence, d'une dynastie de Boyers, et ils céderont, ils vendront les droits de la pêche au thon à Rouen, au prince de Rouen, Montbazon, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors là, il y a aussi des documents qui nous montrent un petit peu à la fois les revenus, la fluctuation des fermes, fluctuations qui sont liées, bien sûr, aux modifications de prise. Les baux sont fixés pour 3 ou 4 ou 6 ans, et on peut suivre ainsi, en fonction de ces baux qui sont placés à l'encan, aux enchères, voir un petit peu les fluctuations, des fluctuations qui peuvent être liées à la conjoncture. Au fait qu'il peut y avoir des guerres qui gênent, bien entendu, la fréquentation des littoraux, mais aussi le manque de poissons. Enfin, j'ai retenu le dernier élément qui est aussi utilisé, c'est mon collègue Daniel Faget, qui travaille un petit peu sur cette question, l'utilisation de produits toxiques pour prendre des poissons. C'est l'usage de plantes. De plantes broyées, ces plantes que nous pouvons croiser le long de nos chemins, du sentier du littoral, c'est la molène blanche, la grande forbe ou le cyclamen pourpre, des plantes qui sont attestées par des botanistes allemands pour engourdir ou étourdir le poisson, sans, semble-t-il, intoxiquer les consommateurs. Alors Daniel Faget donc a repéré ces produits locaux, a aussi repéré d'autres produits qui sont importés, notamment des coques du Levant, mais aussi de la noix vomique. Coque du Levant, noix vomique, laquelle contient de la strychnine, et qui est aussi utilisée, qui arrive par Alexandrie, et les caravaneurs, par exemple, peuvent charger de cette noix vomique, qui est utilisée, donc broyée, et répandue pour engourdir, étourdir le poisson, le ramasser, avant de le distribuer. Alors pour conduire opérations de pêche, les embarcations employées sont modestes. Ce sont des bateaux, hein, des bateaux, alors le terme est un terme qui correspond à un type, hein, c'est pas le, aujourd'hui on parle de bateau, c'est un terme générique, là ça correspond à un type d'embarcation, hein, c'est 5, 10 tonneaux, hein, des bâtiments de taille modeste, des tartanes également, hein, qui sont aussi utilisées, des tartanes qui ont une portée de 30 à 60 tonneaux, hein, pour la Provence, des tartanes un peu plus importantes, 80, 90, 100 tonneaux, hein, pour le Languedoc. Alors, au passage, ces ex-voto, cher à Bernard Cousin, rappellent les risques encourus, hein, par ces pêcheurs, même si nous sommes très près du littoral. Tempête, accident, donc naufrage. Gilbert Larguier, par exemple, a pu pointer en 1692, près de Gruissant, une dizaine de bâtiments qui font naufrage en un jour. Hein, donc 4 tartanes de Martigues, donc un coup de vent soudain qui peut provoquer ce type d'accident, bien sûr. Alors ces bâtiments, comme pour les bâtiments de commerce, sont des copropriétés, sont des propriétés familiales, fractionnées en parts, hein, fractionnées en kira, hein, en parts jusqu'à la fin du XVIIe siècle, puis on parlera davantage de kara ou de kira, hein, de 24. Hein. Et ce sont surtout des entreprises familiales, hein, ou quelques sociétés de pêche, hein, qui participent à ces opérations. Donc, disons, une pêche, hein, ou, après ce panorama, je dirais simplement une pêche de diversité, hein, pour les techniques, certaines originales, hein, d'autres tout à fait banales, hein, une pêche qui est assez territorialisée, hein, en Languedoc, avec des prises de mer qui peuvent être inférieures à celle des étangs, là également, je renvoie aux travaux de Gilbert Larguier, et que pour les étangs, a pu montrer des pêcheurs, hein, qui ont une imposition, par l'étude de la capitation, hein, imposition supérieure à ceux des pêcheurs de pêche en mer. Hein. Et une pêche qui est aux mains de sociétés diverses. Ce sera donc le deuxième point, sur ce qui sont ces pêcheurs. Quels sont les règlements, donc les normes. Alors ces pêcheurs, ce sont d'abord une sorte des individus, hein, des familles, propriétaires de tout ou partie, de l'embarcation et de l'outillage. Ce sont surtout, hein, surtout des associations familiales, hein, de véritables nébuleuses familiales, hein, non pas la famille de forme étroite. Hein, à Collioure, la pêche au thon est une pêche communautaire, familiale, avec chaque année, hein, le tirage au sort de chefs de pêche, hein, et là, c'est pour 70 bâtiments qui seront affectés à des groupes familiaux. Hein, où nous avons aussi, dans les temps de Narbonne, ce que l'on trouve de manière un petit peu plus incertaine pour les temps de Berre, des portions des temps qui sont attribuées. Chaque famille, chaque année, a des familles par tirage au sort. Et donc, il y a là aussi, comme il y a la distribution de l'eau dans les campagnes provençales, c'est la distribution de portions des temps, hein, qui peuvent être attestées dans la région de Narbonne. Ce sont aussi, à côté de ces individus ou de ces démuleuses familiales, des sociétés, des fermiers, hein, que j'ai entrevus à propos des bourdigues ou des madragues. Surtout donc pour l'exploitation de pêcheries fixes, avec des baux, des contrats, passés devant notaire. Alors ce sont les bourdigaliers, hein, qui affirment les postes dans l'étang de Berre, hein, des postes qui sont contrôlés jusqu'au XVIe siècle par l'archevêque d'Arles, puis par une puissante famille, la famille Galifet, hein, qui va affirmer, cette famille, les postes jusqu'au XIXe siècle. Les madragues sont également exploités selon un système semblable, hein, avec des sociétés de madragues, les madragaires, comme on les appelle dans les documents notariés, qui reçoivent donc ces droits de caler des madragues. Hein. J'ai parlé des boyers de Bandol, j'aurais pu aussi signaler Charles de Vintimille, hein, le comte du Luc, le seigneur d'Aguet, hein, par exemple, ou le chef d'escadre des galères, hein, qui avait pris en ferme ces madragues. Ce sont parfois des collectivités. La Compagnie du Cap Nègre, par exemple, gère les madragues de de Cassis. Plus étonnant, on verra pourquoi par la suite, ce sont les prud'homies de Marseille qui aussi prennent en location des madragues. Alors ces madragues et ces sociétés sont, vous l'avez bien vu, des marchands, des officiers, des magistrats. Ce sont eux qui choisissent le raïs, qui choisissent le capitaine, qui disposent d'un savoir qui est transmis de génération en génération, avec entre ces raïs également de véritables réseaux. Le raïs, les raïs qui sont à Saint-Tropez sont alliés ou membres de même famille que ceux de Sanary ou de La Ciotat. Donc là, il y a aussi une circulation de ces hommes, de ces techniques, de ces savoir-faire. Les fermages sont donc variables, en fonction de deux paramètres importants, deux paramètres conjoncturels, l'importance ou la fluctuation des prises et les périodes de guerre qui provoquent l'insécurité à proximité des installations fixes. Ces pêches se déroulent selon un rythme saisonnier, qui est dicté largement par la migration des scombridés pour les madragues. Et avec, d'autre part, l'installation de modestes infrastructures à proximité du rivage, des cabanes sur les plages, qui sont parfois le point de départ de petits bourgs. On a pu l'observer en Languedoc, on l'observe également le long des côtes provençales, ce qui était une simple marina, le Lavandou, qui était une marina de Bormes, bien devient un petit port de pêche. C'est le cas aussi de La Ciotat, qui était le port ou la marina de l'Acadière, mais qui ou de Ciarest, et qui va peu à peu se détacher et devenir aussi un port de commerce. Donc il y a ces doublons qui sont attestés et qui sont liés très souvent à la pêche. Bon, ces prises, eh bien, sont d'abord préparées bien souvent par la famille, par des épouses, des mères ou des filles, qui, nous voyons pour le démaillage dans une photographie du XXe siècle, donc là une pratique qui s'est prolongée, mais également le ramandage, le raccommodage donc des filets, comme on peut le voir sur le document supérieur. Et puis la vente. La vente, nous sommes ici sur le quai de la Fraternité, donc à Marseille, où des marchandes proposent des produits. Et là aussi, Joseph Vernet, particulièrement attentif dans ses toiles, même s'il s'agit d'une mise en scène, d'une recomposition, il y a là des éléments d'une très grande finesse. Donc des huîtres ici, ou également des oursins qui sont ouverts et qui sont présentés donc au badaud, avec derrière des marchandes de fruits et légumes, mais également qui nous montrent que c'est la même saison où les oursins sont pêchés que la vente de pastèques ou la vente de coings qui sont proposés sur les paniers qui suivent. Donc, distribution également de ce poisson par des pêcheurs. J'en reviens au manuscrit catalan que j'évoquais précédemment, qui nous présente ces pêcheurs qui sont, d'autre part, avec des costumes qui n'ont rien de spécifique. Ils sont de grosses chaussures, un gros sabot, parfois un bonnet rouge, mais il n'y a pas davantage de signes distinctifs, pas de vêtements spécifiques qui pourraient donc identifier fortement les gens allant à la pêche ou au commerce, avec donc, des poissons placés dans un panier, et ici donc des sardines qui vont être diffusées, distribuées, distribuées, comme on le voit ici, par mulets, donc ces muletiers, avec ces banastes, ces paniers en osier, où le poisson va être entassé, parfois avec de la glace qui est prise dans les glacières de la Sainte-Baume à proximité, ou bien avec des sacs mouillés, et ces muletiers vont transporter, apporter le poisson depuis Marseille, depuis l'étang de Berre, vers Aix-en-Provence, mais au-delà, vers Brignoles, et plus loin encore. Ils voyagent surtout la nuit, et donc Daniel Faget, dont j'évoquais les travaux précédemment à propos des plantes toxiques, Daniel Faget suit actuellement le cheminement de ces muletiers dans l'ensemble donc de la Provence. Il y a cependant une vente qui peut être faite directement à proximité du lieu de pêche, dans le magasin de madragues, donc ici à Saint-Tropez, dans un lavis qui date du début du XIXe siècle. C'est dans ce magasin-là que sont entreposés les filets, la madrague, que l'on retire Hein, la Mandragore donc, est calée entre mars et les retirées septembre, octobre, parfois tout début novembre. Et donc, les filets vont être stockés dans ce magasin. Mais c'est dans ce magasin aussi qu'on va pouvoir procéder à des ventes, hein, à des ventes de thon entier ou débité, et que l'on mesurera avec beaucoup de précautions, avec une balance, hein, ce qu'on appelle un scandale. Le scandale, moi je me souviens, en travaillant sur Saint-Tropez, avoir été aux archives départementales donc du Var, donc à Draguignan, avoir trouvé un dossier à propos du scandale du poisson. Alors je pensais qu'il s'agissait d'un litige, d'un conflit à propos de poissons qui n'étaient pas frais ou autres. Donc il s'agissait en fait simplement de mon ignorance du terme scandale qui correspond à la balance romaine, hein, qui est utilisée. Et en fait, elle n'était pas juste, elle n'était pas fidèle, cette balance, ce qui avait provoqué bien sûr ce conflit. Donc, distribution également à la halle, hein, à la halle aux poissons. Alors, ce poisson qui est pêché, qui est distribué, est cependant le fruit d'une réglementation de pêche. Réglementation qui met en jeu trois, je dirais trois groupes, hein. D'abord les seigneurs, puis l'État, et enfin les prud'homies, hein, que j'ai ici évoqués à partir de ces documents. D'abord les seigneurs. Les seigneurs, je les ai signalés à plusieurs reprises, hein, qui sont dépositaires des droits de pêche. C'est l'archevêque d'Arles, hein, pour les bourdigues entre l'étang de Berre et la Méditerranée, par exemple, jusqu'au XVIe siècle au moins. Ce sont les seigneurs de Bandol, pour les Mandragues, par exemple. Ce sont aussi les seigneurs d'Aguet, hein, Aguet, petite localité à proximité de Saint-Raphaël, les seigneurs d'Aguet, qui disposent d'un droit de pêche des anchois, hein, y compris la nuit. Donc, les seigneurs. Deuxième groupe, deuxième acteur, l'État. Hein. L'État qui intervient directement par les amirautés. Hein. Les amirautés, et qui sont en mesure de faire appliquer certaines obligations, hein, par exemple à la suite de l'enquête de Le Masson du Parc, hein, en 1726, il y a une réglementation de la taille des filets, hein, pour protéger les espèces, hein, pour empêcher les petites prises. Alors, bien sûr, l'application sera très inégale, il y aura des mesures assez violentes, notamment la destruction donc de bateaux de pêche, hein, mais avec un débat, une discussion très vive, hein, parce que ce manque de pêcheurs signifierait aussi manque de marins. Hein, donc là, l'État a une situation qui est assez fluctuante. Troisième donc groupe, forte originalité, ce sont les prud'homies, hein, les prud'hommes, hein, les tribunaux de pêche, hein, tribunaux de pêche, hein, que j'ai eu l'occasion d'étudier aussi bien à partir de Saint-Tropez, mais surtout plus encore de Marseille, hein, également des travaux de Marc Pavé, hein, sur les prud'homies, hein, ont pu aussi apporter des éléments d'information. Alors c'est la plus ancienne de ces prud'homies, de ce tribunal de pêche, les plus anciennes traces sembleraient autour du début du XIVe siècle. Hein, on retient volontiers la date de 1318, hein, là, les travaux aussi de François-Xavier Emmanuelli, hein, permettraient un petit peu de retenir cette date, hein, qui est mentionnée au tout début des papiers, hein, des papiers de cette prud'homie, hein, qui viennent d'être classés et qui sont en dépôt aux archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille. Donc cette prud'homie, cependant, a été reconstituée, hein, en 1431, après le sac de Marseille par les Catalan. Alors, cette prud'homie, nous en avons, à partir de ces documents, le fonctionnement. Hein. Ce sont des patrons pêcheurs qui sont consultés régulièrement, c'est ce qui explique l'origine de la prud'homie, sont consultés régulièrement par le pouvoir local pour trancher les litiges entre pêcheurs. Alors finalement, le comte de Provence délègue ce pouvoir de justice à des hommes compétents, à des hommes honnêtes, à des hommes de bonne moralité, à des hommes prudes. Et donc, ils ont le droit de juger les différends, hein, entre pêcheurs. Donc, cette prud'homie renaît, hein, je le répète, en 1431, et elle sera suivie, hein, de création à La Ciotat, 1453, à Toulon, 1718, à Cannes, 1721. Alors, ces prud'homies fonctionnent avec un petit groupe, les prud'hommes. Pour Marseille, il y a quatre consuls, quatre représentants, qui sont changées chaque année. L'élection a lieu le lendemain de Noël. Et ce sont ces consuls, ces prud'hommes, qui sont choisis parmi les patrons pêcheurs, ce qui revêtent ce costume particulier, qui est ici représenté pour le costume, ici pour Toulon. Ici, c'est dans un dessin de Letuaire, qui nous pour les consuls et prud'hommes de Toulon, mais également ici à Marseille, aujourd'hui, à l'occasion d'une fête, la fête de la Saint-Pierre, et les prud'hommes qui ressortent, car la prud'homie n'a pas du tout disparu. Et donc ici, simplement, ce livre, un des livres, parmi ces archives qui sont vraiment d'une très grande richesse, dans ce livre, avec les croix, bien sûr, qui rappellent, bien sûr, la protection de Saint-Pierre, où figure ici l'ensemble des dépenses qui ont été engagées pour toutes sortes de festivités, pour la réception d'un personnage important, ou bien pour organiser un feu d'artifice, ou organiser de la drague dans le Vieux-Port, pour la venue de Louis XIII, lui confier un trident pour prendre des poissons, ce qui a beaucoup amusé d'ailleurs le souverain. Donc on a là cette institution qui est très forte, ses patrons pêcheurs, avec un paradoxe, c'est à la fois la masse des archives pour une institution où c'est l'oralité qui domine. On parle et on parle provençal, puis ensuite on écrit, on transcrit le résultat des discussions. Nous avons là donc cette institution qui joue un rôle très important, qui n'a pas disparu. Au contraire, malgré la loi Le Chapelier et la fin des corporations, le modèle se répand. On en compte une douzaine en 1815, alors qu'il y en avait 5-6 avant la Révolution, donc c'est doublé. En 1850, 23. Aujourd'hui, nous en comptons à peu près une trentaine. Une trentaine avec quelques frictions avec les autorités de l'Union européenne, qui considèrent un petit peu cette juridiction comme quelque peu décalée et un peu à la marge de la juridiction européenne. Donc, réunion le dimanche, dans un local dédié à la prud'homie, placé sous la protection de Saint-Pierre, des registres, et également une puissance dans la cité, avec, je l'ai dit, pour des cérémonies, mais aussi des dons, l'entretien d'une chapelle, des lits à l'Hôtel-Dieu, ou bien la dotation pour les familles qui sont démunies, les dots pour les filles grises, c'est les filles orphelines de pêcheurs. Et ces prud'homies disposent de terrains au pied de l'actuel Faro, de Marseille, à l'entrée du Faro, près du Fort Saint-Nicolas, de terrain pour faire sécher les filets, de chaudron pour teindre les filets, c'est avec l'écorce du pin, donc qui est broyée, pour donner cette couleur un petit peu marron donc au filet. Et il possède aussi, tout le monde, il gère deux madragues, au sud et au nord de Marseille, au sud c'est à Sormiou, près de Cassis, au nord de Marseille, à l'Estaque. Et c'est cette institution qui réglemente donc la pêche, par exemple, c'est la prud'homie qui interdit la sortie le dimanche, sauf munie d'une dispense. C'est également cette prud'homie qui interdit la pêche au feu. La pêche au feu, la nuit, c'est la pêche utilisant des lampareaux, donc des lampes, pour attirer le poisson et le capturer plus aisément. Donc, trois forces que l'on va voir un petit peu en lutte en jeu à propos de trois pratiques. D'une part, le ou la palangre, il y a les deux termes, empandi, ce sera le premier élément. Puis la pêche au bœuf, deuxième technique, qui est aussi au cœur de conflits. Et enfin, ce sera aussi, bien sûr, pour l'usage des madragues. Donc ces trois techniques, ces trois dispositifs ont été l'objet d'affrontements, d'accrochages entre les pêcheurs, mais également des conflits qui débordent amplement le simple monde de la pêche. D'abord, l'usage du palangre. Ce conflit autour de ce dispositif marque surtout les années 1730, 40, et ce conflit se prolonge jusqu'au milieu du 19e siècle. Il y a plus d'un siècle donc d'affrontements à propos de cette technique. Une technique qui voit un face-à-face entre, d'un côté, les pêcheurs de Marseille et, de l'autre côté, les Catalans et les Napolitains, mais surtout les Catalans. Hein, les Catalans qui sont venus en nombre après la peste qui a touché Marseille en 1722, Marseille et la Provence, en 1722, et des Catalans dont la présence s'est affirmée après la signature du pacte de famille, hein, après 1761. Cette présence a conduit les pêcheurs marseillais, et notamment la Prud'homie, à se dresser contre, je les cite, contre l'invasion de ces pêcheurs étrangers. Pêcheurs étrangers qui sont autorisés à pêcher librement sur les côtes provençales et vendre leurs prises dans les poissonneries de la ville. Donc, conflit qui peut paraître ici un conflit entre guillemets de nationalité, qu'on peut retrouver ailleurs. Une simple petite parenthèse, on a des frictions autour du golfe de Saint-Tropez entre les Tropéziens et les Génois, hein, lesquels Tropéziens souhaitent réserver la pêche aux Tropéziens, réserver, on parle aussi des textes du XVIIIe siècle, la préférence nationale aux Tropéziens, hein, car les Tropéziens sont soumis au service des classes, ce qui n'est pas le cas des Génois. Donc il faut réserver la pêche aux sujets qui servent sur le vaisseau du roi, selon le système des classes, même si le système est un système morné, hein, comme André a pu le montrer remarquablement. Donc, je reviens à Marseille. Pour la Prud'homie, avant l'arrivée des Catalans, les Marseillais pouvaient disposer de poissons frais en abondance. Un poisson qui était bon marché, un poisson qui était frais et de qualité. Alors ceci va conduire, cependant, à une multiplication de griefs de la part des prud'hommes et des patrons pêcheurs envers les Catalans. Alors, parmi les accusations, qui revient très régulièrement, c'est qu'ils ne respectent pas l'autorité des prud'hommes. Hein, donc ces Catalans sont irrespectueux de nos traditions. Parmi ces traditions notamment, et refuse de verser la demi-part. Mais là, il y a aussi des débats, des dossiers très nourris à propos de la demi-part, hein, qui est une taxe proportionnelle aux prises qui doit être versée à la Prud'homie. Les pêcheurs marseillais protestent également car les Catalans pêcheraient la nuit. Hein, une pêche nocturne qui est strictement prohibée par la Prud'homie. Ils utiliseraient des appâts prohibés, et notamment des sardines. Utilisation de sardines, autrement dit, on gaspillerait du poisson pour prendre d'autres poissons. On gaspillerait du poisson bon marché pour prendre du poisson qui serait de prix plus élevé, le merlan, pour nourrir une population plus huppée. Mais ce qui est aussi et qui revient avec plus d'insistance, c'est les filets. Des filets qui ont des mailles très étroites, des mailles qui, on est marseillais, hein, mais qui laissent à peine passer l'eau. Hein, on va dire un petit peu là aussi pour pointer le grief. Mais surtout, hein, ce qui est l'élément central, c'est l'usage d'une technique dévastatrice. Hein, c'est l'usage du palangre en pandi. Hein, palangre en pandi, avec des hameçons de petite taille, associés à des substances vénéneuses, hein, vénéneuses qui empoisonnent, qui étourdissent le poisson et qui peuvent empoisonner les hommes. Et là, des textes qui décrivent ces pêches, c'est assez extraordinaire. Hein. Les poissons pris par les Catalans, ces poissons recherchés, les merlans, sont décrits, ils s'agitent, ils provoquent dans la mer une forte écume, un vrai phosphore, je cite, un vrai phosphore qui forme sur la longueur de la ligne un filon de lumière qui épouvante le poisson à 3 ou 4 lieues de distance et qui le fait fuir de nos côtes. L'épouvante, la frayeur qui est ici présentée. Alors, ce palangre en pandi, vous en avez ici une représentation, tout simple, c'est une situation intermédiaire. C'est pas la ligne de fond, c'est pas la ligne de surface. C'est donc une ligne qui permet de placer à mi-hauteur des hameçons pour prendre donc du poisson, et du poisson aussi dans les parties basses. Donc il y a une pêche qui peut être abondante. Alors dans ce réquisitoire de la part des des prud'hommes marseillais, apparaît surtout souci de la santé publique. Souci de la santé publique et, d'autre part, la volonté de protéger les ressources. En aucun cas, en aucun cas, on évoque la concurrence économique. En aucun cas, on évoque la baisse des prix à la suite de captures importantes. Alors, ces griefs ont été à la source d'une longue lutte avec une quantité de procès. Quantité de procès, où on retrouve ces menaces sanitaires et pénuries alimentaires, avec un jeu complexe entre trois ou deux acteurs. Je dis trois ou deux, pourquoi? Parce que d'abord il y a l'État. L'État, représenté par l'intendant, a surtout soutenu, dans ces conflits qui vont durer plus d'un siècle, surtout soutenu l'action de la fidèle prud'homie. La prud'homie de Marseille est fidèle donc à l'État, et donc il y a une sorte de volonté de donner raison à la prud'homie. Toujours émanation de l'État, l'amirauté. L'amirauté a eu en revanche tendance à soutenir les pêcheurs catalans, en fait par jalousie des prérogatives laissées par l'État à la prud'homie, et sur une partie des gens de mer, sur ces pêcheurs qui peuvent être aussi appelés au service sur les vaisseaux du roi. L'amirauté va cependant être rappelée un petit peu à l'ordre par le pouvoir central. Le conseil de ville, donc la ville de Marseille, est aussi tiraillé. Tiraillé entre le soutien à accorder aux prud'hommes, qui sont bienveillants à l'égard de la municipalité, mais en même temps soutien aux Catalans, car par les pêches importante, eh bien l'alimentation peut être aussi bon marché, car les Catalans ne livrent pas que du merlan, mais il y a aussi un poisson qui peut être vendu de manière illicite, disaient les prud'hommes, à savoir les fameuses sardines. Ces fameuses sardines qui sont utilisées comme appât et achetées à des prix préférentiels par les Catalans, eh bien les Catalans, disent les pêcheurs marseillais, vendent ces sardines en quantité, non pas pour les appâts, mais vendent à des pêcheurs qui ensuite, à des marchands qui clandestinement vont venir s'approvisionner pour aller vendre ces sardines de manière illicite à des populations marseillaises. Donc il y a aussi ce grief, et on voit les femmes des Halles, donc à Marseille notamment, sont proches des Catalans, soutiennent dans les Catalans. On voit bien là cette division, cette complexité, avec un clivage qui ne fait pas apparaître, comme on l'a pu l'écrire quelquefois, d'un côté les Catalans, d'autre côté les pêcheurs marseillais. Non, il y a des pêcheurs catalans qui épousent des Marseillaises, il y a des signes d'intégration, des mariages entre Catalans et familles de construction, de bâtiments à Marseille. Donc il n'y a pas la mise à l'écart. Ceci a été souvent présenté car on a pu attester. C'est vrai, il y a à Marseille, il y avait hors les murs les vieilles infirmeries de Marseille, le quartier des Catalans, donc un quartier qui paraissait être un quartier réservé où les Catalans étaient regroupés. Bon, en fait, quand on examine un petit peu à travers les registres paroissiaux, tout simplement, les mariages, les baptêmes, les sépultures, mais on voit que il y a aussi des Catalans qui vivent dans les quartiers nouveaux, le quartier Saint-Laurent, ou le quartier Saint-Michel, ou la paroisse Saint-Martin, par exemple, à Marseille. Donc, il n'y a pas un confinement des Catalans dans un espace qui serait réservé à ce groupe marginalisé. Pas du tout. Donc, situation complexe. J'en veux aussi autre point. Au début du XIXe siècle, la plus grande entreprise marseillaise qui approvisionne les pêcheurs en hameçon, c'est une entreprise catalane. Donc on voit bien là aussi ces liens qui sont loin d'être aussi tranchés entre ces deux groupes que montre cet affrontement à propos de cette pêche. Alors finalement, après force de procès, débat, discussion sur lesquels je passe, il y aura des interdictions, aménagements, autorisations conditionnelles. Bon, finalement, l'État tranche en donnant satisfaction aux prud'hommes de Marseille, en interdisant l'emploi du Palan Grand Pandi. Hein. En 1859, interdiction. Interdiction, mais entre nous, c'est inutile et trop tard. C'est inutile et trop tard, pourquoi? Mais parce que depuis les années 1825, discrètement, les pêcheurs marseillais ont adopté et adapté leur ligne en utilisant les innovations préconisées par les Catalans. Au moment où il y a l'interdiction de cette technique-là, la technique n'a plus d'usage. Pourquoi? Parce que les fonds marins, tout au moins pour la capture des merlans, ben ces fonds marins paraissent avoir été épuisés ou se trouvent fortement menacés par une pêche concurrentielle, hein, à savoir la pêche au bœuf, la pêche au bœuf. Hein. Et c'est donc le deuxième dispositif là, qui va nous permettre aussi de retrouver une autre source de conflit. La pêche au bœuf, la pêche à la vache, la pêche au bœuf ou baou, comme on entend ici sur ce document, c'est du chalutage, tout simplement. Hein. Bien, l'origine de cette technique est incertaine. Est incertaine, elle est présentée en Provence, en Languedoc, où on l'appelle aussi, c'est l'art catalan. Hein. Elle est présentée comme avoir été introduite par les Catalans. Des Catalans chassés de Catalogne, car cette pêche menaçait les fonds des espaces catalans. Et c'était une interdiction, sous peine de la vie, hein, disent les textes, qui auraient expulsé les pêcheurs catalans qui seraient venus s'installer, s'établir en Languedoc. Et depuis le Languedoc, puis l'étang de Berre, les gens de Martigues, auraient adopté cette technique. Donc, technique venue, semble-t-il, hein, de Catalogne vers le Languedoc et la Provence. Si l'on en croit le mémoire que j'ai évoqué précédemment, hein, qui nous présentait à la fois le ramassage ou la cueillette du corail, ou bien les pêcheurs hein, qui mettaient les sardines dans les paniers, si j'en crois donc ce mémoire, c'est un mémoire donc catalan, qui dénonce la pêche au bœuf introduite en Catalogne par les Provençaux. Alors, bon, débat, discussion, mais hein, et quoi qu'il en soit, les griefs sont les mêmes. Dans les deux cas, même accusation, cette technique laboure les fonds marins, cette technique détruit les petites espèces, perturbe les autres pêches, les autres modes d'exploitation, et c'est une technique qui est à l'origine de la stérilité de la mer. Donc voilà, c'est un point vraiment récurrent dans ces attaques. L'État semble cependant d'abord encourager cette pêche. Semble encourager cette pêche, pourquoi? Parce que dans un contexte de pénurie de marins, fin 17e, début 18e siècle, la pêche au bœuf est encouragée parce que son système de traction double est présenté comme ayant la vertu de réclamer beaucoup de matelots. Donc c'est une pêche qui formerait beaucoup de futurs marins. Et le besoin d'hommes, là, prime sur la protection des ressources, d'où l'autorisation qui serait donnée, même l'encouragement à cette pêche. Cependant, des pêcheurs de Martigues ou de Sète, opposés à cette technique, montrent la supériorité de la pêche à la tartane. Donc la tartane emploie autant d'hommes que la pêche au bao en utilisant des bâtiments plus gros hein, que ces bateaux. Hein, les grosses tartanes, 80-90 tonneaux, finalement, nécessitent un équipage plus nombreux, pas forcément des gens de mer d'ailleurs, sur ces bâtiments, hein, qui sont ensuite éventuellement cette pépinière de matelots dont recherche l'État. Hein, et cette pêche-là d'ailleurs est encore attestée dans les années 1930-1935, hein, il est encore présenté dans certains mémoires. Donc troisième technique, donc, hein, troisième dispositif, les madragues. Les madragues, bon, nous pourrions dire ce que je vais dire pour les madragues, même chose ou presque pour les bourdigues. Alors, les pêcheurs sont les premiers à attaquer. Hein. D'abord, les madragues, ils ne sont pas des pêcheurs. Ce sont des gens qui viennent de la ville, des magistrats, des marchands, des officiers, ce ne sont pas des pêcheurs. Donc, des loyaux, ils viennent prendre cette ressource. Deuxième grief, hein, ils s'emparent des meilleurs postes de pêche. Les maragues sont placées où passent les thons, d'accord, mais ce sont les postes où on pourrait aussi placer nos engins, nos filets. Autre grief, les mailles des filets des maragues sont petites et laissent passer l'eau. On retrouve là aussi, hein, comme pour les prud'hommes de Marseille, cette critique, hein, en disant que ce sont là des moments de pièges étanches, hein, qui finalement emprisonnent tous les poissons. Autre grief, ils ne prennent pas que des thons, gaspillent les poissons qui restent dans les mailles et appauvrissent les fonds en prenant les alevins. Là aussi, c'est aussi tout au long du 17e, non, du seconde moitié du 17e siècle et tout au long du 18e siècle, ce sont les mêmes termes qui reviennent, hein, pour accuser les fermiers des madragues. On les reverra également, ces griefs, au 19e siècle. Mais alors qu'on les s'y déconsidère, ils seront ensuite pris, renversés contre les madragues. Alors je continue la liste des griefs. Les pierres, hein, ou parfois les petites ancres, mais surtout les pierres, les bodes, qui sont utilisées pour tendre les parois, ne sont pas retirées des fonds, ce qui endommage les filets. Et quand on retire la madrague, quand on enlève la madrague après la cadaison, quand la campagne est terminée, hein, les pierres qui ont été utilisées pour que les madragues aient des parois bien verticales, mais on les laisse donc au fond. Et à ce moment-là, quand on va passer avec nos filets, eh bien, on va détériorer donc les filets, disaient les pêcheurs. Les madragues gênent la circulation des caboteurs, la navigation de la marine. Et nous avons des naufrages à cause des madragues. Alors il y en a quelques-uns, mais très peu, ou des avaries, hein, sans que ce soit des naufrages, et qui ont été signalés entre la grande et la petite rade de Toulon. Hein. Enfin, ils sont à l'origine de l'insalubrité des quartiers, car c'est fermiers de madrague qui font retirer les thons, les font découper, préparer, et les entrailles sont jetées, et il n'y a pas de nettoiement, et donc ça va provoquer des odeurs et l'insalubrité des quartiers. Alors tout ceci s'ajoute aussi, hein, à un privilège. Ce privilège est d'un autre âge. Hein, et l'État ne peut pas, ne doit pas concéder une partie du territoire maritime à des particuliers. Alors contre ces griefs, les madragues ripostent. Ils ripostent avec des arguments qui sont là aussi, hein, récurrents, 17e, 18e. Hein. Les madragues, disent-ils, sont des écoles de formation de mousses et de pilotes. De mousses et de pilotes, donc, pour l'État, hein, nous ne sommes pas nuisibles. Deuxième élément, nous employons les invalides de la marine. Les demi-soldiers, les invalides de la marine, eh bien, on les utilise comme guetteurs, ou bien lorsqu'il faut participer à la matance, eh bien, on peut les employer. Ce poisson, ou ces poissons qui sont pris dans les madragues, outre le thon, procurent du poisson en abondance et à bas prix. Là, c'est un argument, hein, que l'on retrouve et qui sera aussi soutenu à Toulon par la municipalité, qui atteste effectivement, hein, le bas prix de ce poisson qui est livré par les fermiers des madragues. Enfin, et on retrouve ici ce qu'on disait sur la gravure précédemment, elles permettent la prise de prédateurs, des dauphins, des requins aussi, qui détruisent les filets des pêcheurs. Et donc il y aurait là, finalement, une protection grâce à ces labyrinthes de mailles, hein, que sont les madragues. L'autre élément, grâce aux madragues, les rivages sont davantage sécurisés, hein, car à partir du mois de février, on commence à observer, hein, si les thons arrivent, et donc on peut aussi voir s'il n'y a pas une voile suspecte à l'ennemi, à l'horizon, qui serait l'ennemi. Hein. Et donc, ce serait peut-être là aussi un élément à mettre à l'actif, hein, des madragues. L'autre élément, c'est la critique, c'est que les pêcheurs ne respectent pas l'ordonnance de 1681. Ces pêcheurs s'approchent trop des madragues. Ils devraient se limiter, ne pas aller à plus de 2 000 des madragues et en fait viennent plus près. Donc là aussi, il y a un irrespect de la part des pêcheurs. Et les madragues argumentent également en disant que lorsque on retire La madrague. Eh bien, on a là des moissons qui sont possibles pour les pêcheurs, car on aura préservé les petits poissons, ou les petits poissons auront pu prospérer dans cette enceinte de mailles, et on pourra ensuite, avec les filets, mais les pêcheurs pourront venir. Et donc, nous protégeons un espace, hein, qui pourra être utilisé par les pêcheurs. Hein. Nous formons, dit-il, un parc protecteur qui évite la capture du frottin par les filets qui labourent les fonds marins. Alors, ces arguments vont être agités, hein, pendant 2 siècles et demi. Disons, pour résumer, qu'on dit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, hein, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, tous les procès, hein, toutes les procédures seront des procédures à l'avantage des madragaïres. Les pêcheurs ne seront absolument pas donc entendus. Aucune mesure contre l'utilisation de ces dispositifs. À partir du début du XIXe siècle, à partir donc de la restauration et du retour d'émigrés, hein, comme Rohan ou d'autres qui exploitaient les madragues, eh bien, on va avoir une attitude différente de l'État. L'État tend à prêter l'oreille aux critiques des pêcheurs. L'État va agir, non pas brutalement, mais va agir en ne renouvelant plus les baux aux fermiers et les baux, donc les droits qui avaient été accordés aux seigneurs depuis le début du XVIIe siècle. Donc non renouvellement des baux. Et dans cette lutte menée contre les Mavagai, ce qui est assez bon, étonnant, c'est de voir le jeu essentiel joué par les prud'homies avec la marine, et notamment à Toulon. Les autorités de la marine à Toulon sont en correspondance avec les prud'homies, et avant même d'ailleurs que des mesures soient annoncées ou soient proposées, ou qu'une enquête soit faite par les autorités de la marine à Toulon, les prud'homies engagent l'information. Il y a vraiment une action donc commune et même anticipée dans la diffusion de l'information par les prud'homies qui soutiennent et qui sont soutenus par la marine, non par l'État. Et le danger que peut représenter les madragues à l'entrée du port de Toulon est rappelé par la marine en disant oui, ça peut occasionner effectivement pour les manœuvres des jeunes. Et donc ce sont des éléments qui vont être repris et mettre à l'actif des opposants aux madragues. Ce qui est étonnant, c'est la prud'homie de Marseille qui gère une madrague à l'Estaque et à Sorbiou, et qui finalement va laisser, hein, ce droit pour s'aligner sur l'ensemble, hein, du comportement des prud'homies. Et ceci va donc aboutir en 1852 à la décision par l'État de la suppression de toutes les pêcheries fixes, bourdigues, madragues, en Méditerranée. Ensuite, ce sera étendu quelques années plus tard, 1859, sur les rives du Ponant. Il s'agit pour l'État d'affirmer un espace maritime public, hein, en volonté de reprendre ce domaine, ce territoire maritime qui avait été prêté, laissé à quelques puissants seigneurs. Et donc ces privilèges sont retirés. Cependant, au même moment, nous avons d'autres propositions qui sont faites. Car au moment où ces madragues sont interdites, où les bourdigues dans les temps de mer sont aussi interdites, il y a une baisse de présence de ces poissons, de ces scombridés. Hein. Et on propose alors, hein, ici c'est deux mesures que j'ai indiquées simplement là, hein, 1852, le décret-loi, hein, auquel l'établissement de pêcherie demeure donc, temporaire, donc, tout ceci, hein, et il n'y aura pas d'autorisation, ou quelques-unes. Hein, et donc la demande d'autorisation, hein, donc c'est étendue à l'ensemble des rivages. Alors, au même moment, il y a des propositions qui sont faites, hein, régulièrement, et parfois certaines, oui, dès la fin du XVIIIe siècle. Gentilhomme marseillais, Ferry, propose en quelque sorte d'établir près de Frioul, l'archipel de Frioul, ici une sorte de réserve où on pourrait avoir des réservoirs pour élever le poisson, hein, sorte d'aquaculture. Hein, et il faudrait agir ici, près de Marseille, comme c'est fait sur les côtes de Ligurie. Ben, je n'ai pas trouvé, hein, près de Gênes ou de Livourne, de tels dispositifs, hein, mais c'est signalé. Hein. Alors, là aussi, toujours sous la crainte de la pénurie, il faudrait mettre en jachère une partie de la mer. Il faudrait empêcher, hein, la pêche pour quelques mois ou quelques années dans certaines portions du territoire. Et il y a quelques naturalistes, comme ici Léon Vidal ou Eugène de l'Amiral, qui proposent, eux, des élevages, on rejoint un petit peu la proposition de Ferry, d'élevages en stabulation ou en basse-cour, et l'ouverture de jardins de mer ouvriers. Là aussi, on se trouve, bien sûr, dans ce milieu du XIXe siècle, avec cette multiplication de propositions pour les campagnes et pour les espaces environnement des villes. Alors, ce qu'on peut dire au terme de ce tableau, en quelque sorte, c'est qu'il va y avoir, à partir de ces interdictions, des autorisations qui seront données un peu à la demande. On va voir des madragues de nouveau posées. Hein, la dernière qui est en activité, en 1913, dernière madrague, au nord de Marseille, à l'Estaque. Hein, mais ces madragues qui sont réclamées à cor et à cri, finalement, ces madragues déçoivent, car les captures de thon chutent ou deviennent très incertaines, très irrégulières. Alors, on peut évoquer la pollution, hein, des espaces littoraux par les villes, par les industries, hein, qui commencent à s'établir. On peut aussi évoquer le changement de route de migration de thon. Ça, c'est une hypothèse qui a été évoquée. Et avec l'introduction de nouvelles techniques, hein, techniques notamment la sinche, hein, qui est pratiquée là au nord de Marseille, qui est pratiquée près de l'étang de Berre. Hein. Voilà. Donc il s'agit d'un filet, hein, pour première étape, d'un filet où on a repéré un banc de thon et on va l'encercler, hein, avec ce filet. Et il y a des bateaux qui vont escorter ensuite cette poche avec des thons qui sont prisonniers et on va procéder à la même pêche comme il s'agissait du corpus. Voilà.